Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, commençons par 1er épître de Pierre, verset 10. C'est une parole d'encouragement. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, rassuré par ces promesses, nous pouvons dire, eh bien, c'est vrai, avec tous les aléas de la vie et de l'existence, eh bien que c'est le Seigneur qui s'occupe de nous. Et vous avez remarqué, après avoir souffert un peu de temps. Ça, c'est rassurant, parce que quelquefois, nous trouvons la souffrance très longue. Et on se dit, qu'est-ce que c'est difficile. Mais ça fait partie de ce temps de la vie. En tous les cas, c'est lui qui va nous perfectionner, c'est lui qui va nous affermir, il va nous fortifier, pour nous rendre inébranlable. Alors, autour de ce principe, de cette parole, nous allons lire maintenant un autre texte dans Jérémie chapitre 18 et vous allez comprendre à quoi nous voulons en venir. Alors, Jérémie chapitre 18, verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette réflexion que nous poursuivrons une autre fois parce que il y a beaucoup de choses à dire dans cette pensée que j'aimerais, avec la grâce du Seigneur, développer avec vous. Et ainsi, eh bien, cela nous ramène naturellement, eh bien, au travail que Dieu fait dans nos vies. Il nous prend et puis il nous construit, il nous édifie, il nous perfectionne, il nous affermit pour que nous devenions, selon les termes lus tout à l'heure, inébranlables. Qui, dans son enfance, n'a jamais pétri, soit de la glaise, de l'argile ou tout simplement de la pâte à modeler, et former quelques figurines, somme toute pour des enfants amusantes. On est tous passés un petit peu par là, hein. La pâte à modeler, on connaît. Et puis, peut-être, dans les travaux manus, en colonie, ou peut-être dans les camps de jeunesse, eh bien, on a été peut-être un peu plus loin. Hein, on a peut-être élaboré, notre goût à ce travail, à cette création, parce qu'on peut appeler ça comme ça, c'est quand même de la création. Et autant que je m'en souvienne, c'est pas d'aujourd'hui, hein, quand même, mais j'ai fait des colonies aussi, et je ramenais à ma maman des petits personnages en plâtre, enfin, quoique le plâtre, ça se moule d'une autre manière. Mais toujours est-il peint, etc., et c'est toujours une joie, hein, pour un enfant de dire, eh bien, voilà ce que j'ai fait. Hein, c'est merveilleux d'ailleurs, hein. C'est toujours merveilleux, et la maman est toujours émerveillée. Même s'il manque un bras au bonhomme, enfin bon, quoi qu'il en soit, mais toujours est-il que c'est vrai, il y a ce goût-là à créer quelque chose à faire. Alors, on est surpris, ou on ne l'est pas, à la lecture de la Bible de relever nombre de références relatives au travail du potier. Vous avez remarqué, hein, ça revient assez souvent, en analogie avec l'œuvre de Dieu. Et nous avons des cantiques comme cela, hein. Hein, je ne suis qu'un vase, un vase d'argile, hein, où il est question finalement, eh bien, où Dieu nous a formés, et puis comme l'argile, enfin toutes sortes de choses. Hein, ça a été l'inspiration de tous ceux qui ont écrit des cantiques, et puis toutes sortes de choses de cette manière. La première mention qui y est faite dans l'Écriture sainte nous présente Dieu créateur. Ben oui, c'est comme ça que les choses, si on commence par les premières pages de la Bible, c'est ainsi que les choses se font. Et il nous est donc démontré un Dieu qui s'affaire autour d'une masse informe de poussière. Et de laquelle, eh bien, il nous est simplement dit qu'il fait jaillir l'humanité. Alors ça, c'est quand même assez intéressant de prendre en considération que quand Dieu a fait ce qui est aujourd'hui devant nos yeux, eh bien, c'est, là aussi nous chantons, né de la poussière, hein, et d'éternité. C'est-à-dire qu'il y a naturellement à la condition terrestre et puis la condition en devenir l'éternité. Alors, ce Dieu créateur, nous le voyons finalement, eh bien, là, prendre de la poussière. Et puis, il va jaillir, eh bien, ce que nous sommes. Et la Bible, par exemple, dans le livre de la Genèse, je vais citer quelques exemples pour étayer notre pensée, au chapitre 2, au verset 7, il est dit ceci, « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être ou une âme vivante. » Voilà, ça commençait comme ça. Alors c'est vrai que pour les rationalistes, ils se disent, « Attendez, je comprends pas, là, il y a quelque chose qui... » Ben oui, mais... On a affaire avec Dieu, on a affaire à Dieu dans cette situation. Alors, nous voyons qu'après, il y a un souffle qui accompagne tout cela, et puis il y a l'animation. L'homme devient une âme vivante, anima âme. Alors, cette forte conscience originelle que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, cette marque originelle que l'homme porte en lui, eh bien, c'est d'être issu de la poussière. C'est un être issu de la poussière et il va l'exprimer tout au long de son histoire, de sa carrière, de son existence. Et nous avons aussi profusion de textes, je vais en citer deux ou trois comme cela, pour nous montrer, eh bien, et pour nous rappeler notre origine. Et notre origine, eh bien, elle peut que susciter chez nous que de l'humilité. Humus, hein, humilité. Alors, nous avons par exemple dans Job, un homme ô combien qui a vu ce que c'était que la condition humaine et à travers ses souffrances, eh bien il écrira, il dira ceci, « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Souviens-toi de toi, que tu m'as formé comme l'argile, dira Job. » Eh oui, et argile douloureuse, hein. Ô combien, lorsque nous lisons, eh bien, son histoire. Dans le prophète Ésaïe, eh bien, toujours la même chose, au chapitre 64, et il est dit, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Quelle confession extraordinaire. Ça, c'est Ésaïe avec tout son style, hein, qui exprime, eh bien, là, sa nature. Et puis dans Romains, parce que nous avons aussi des textes semblables dans le Nouveau Testament, et où il nous est dit ceci, « Ô homme, c'est Paul qui interpelle, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a fait, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Et parfois, eh bien, c'est ce que nous trouvons dans les gémissements des enfants de Dieu et des hommes très souvent, et qui s'en prennent à Dieu en disant « Mais pourquoi je suis ainsi ? Pourquoi les choses sont-elles dans ma vie ? Alors pourquoi tu m'as formé ainsi ? Le potier n'est-il pas maître, eh bien là, de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ?» et puis un vase d'usage vil. Voilà un petit peu le dilemme dans lequel se trouve l'homme, et certainement devant ses questionnements, devant ses perplexités, en disant « Mais pourquoi suis-je ainsi ?» Et puis la réponse, eh bien voilà, elle est autour de nous, là. La Bible est une mine d'enseignements. Parce que si vous regardez un petit peu de droite et de gauche, il y a tant de choses, hein. Il y a des allégories, des paraboles, il y a des choses qui nous parlent. Et Jésus s'est servi beaucoup de ces enseignements figuratifs pour nous montrer, pour nous enseigner. Et je crois que c'est encore la meilleure pédagogie pour enseigner les choses, hein. L'image, à travers bien tout ce que Jésus en a usé, et il en a usé abondamment. Alors, la Bible est une richesse, elle nous enseigne, et la proposition nous est faite, comme à Jérémie hier, eh bien d'aller nous instruire par une visite dans la maison du potier. Alors, l'année dernière, avec le club des personnes, des seniors, on a été faire un petit tour à la faïencerie de Pornic. Mais on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu le travail. On a vu le travail fini. Mais on n'a pas vu le travail se faire parce qu'on y était un samedi et c'était les ouvriers eh bien, étaient de repos. Alors, mais peut-être vous l'avez vu ça, hein, dans votre vie, vous avez peut-être été visité un petit peu chez un potier pour voir un peu ce qui se passe, et c'est quand même assez étonnant, hein. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons découvrir un petit peu, parce que la poterie c'est un métier, ça ne s'improvise pas, moi vous me donnez une masse d'argile, je vous dis pas, hein, Dans quelles conditions je pourrais faire quelque chose, je ne sais pas, hein, j'ai aucune idée parce que je ne. Hein, mais il y en a qui ont ça en eux, ils ont le feeling, hein, et ils ont déjà dans leur tête, hein, eh bien, ce qu'ils vont faire, et ils font beaucoup de choses comme ça. Donc, la poterie, c'est un métier, et je crois que là, nous avons aussi des enseignements. Alors, c'est à nous ce matin d'ouvrir grand nos oreilles et d'écarquiner nos yeux. Enfin, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais en tous les cas, on va se laisser imprégner. On va descendre dans cet atelier et on va voir ce qui s'y passe. Et nous allons y trouver certainement une belle leçon d'observation. Jésus le dit, mais il parlera, mais le royaume de Dieu est semblable à. Et puis il parlera de la foi, il parlera de la puissance de la foi, il parlera de Dieu, il parlera de ceci, de cela. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que c'est accessible et compréhensible à tous les niveaux de la vie. Un enfant peut le comprendre, et puis bien d'autres personnes. Alors, Dieu lui dit, lève-toi, et descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Il y a des endroits où Dieu nous parle. Eh oui. Il y a des situations où Dieu va nous conduire, et pas forcément toujours dans un sanctuaire, dans une basilique ou dans une cathédrale ou une église, ou un lieu, ceci et cela. Il peut nous parler aussi à l'extérieur. Et il y a tant d'enseignements autour de nous. Parce que il y a ce grand livre de la Bible, de la Révélation, mais il y a le grand livre de la nature autour de nous. Et là, eh bien, il suffit d'ouvrir les yeux et de savoir ce que Dieu veut nous dire. Alors, je te ferai entendre mes paroles. Et je crois que c'est une parole aussi pour l'Église, hein, d'encouragement, une parole pour que nous puissions être de plus en plus aptes à nous laisser porter, à nous laisser façonner, à nous laisser peaufiner par le Saint-Esprit. C'est toute la leçon. Une poterie finie. Alors, il y a de grands noms dans la poterie, hein. Il y a Sèvres, par exemple, à Sèvres-Bournou, il y a Delphes en Hollande, et puis il y a naturellement aussi Limoges, hein, j'ai oublié, et puis en Italie, et puis bien, dans tous les pays, hein, les faïences chinoises, par exemple, d'Extrême-Orient sont très réputées. Alors, il y a le vase d'honneur. Et ça relève du miracle. Parce qu'on se dit, mais comment des hommes sont-ils capables, en laissant tourner finalement, eh bien là, une masse de terre, et puis d'en faire, là, quelque chose de très artistique, hein. Et une masse quelconque qui va se transformer en un somptueux vase, par exemple, artistiquement décoré. Et on se dit, mais l'homme est capable de faire des choses. Et il a reçu naturellement cette intelligence pour cela. Alors le secret de la réussite réside à la fois dans la qualité, ce que j'appellerais le grain d'argile. Parce qu'on ne prend pas n'importe quoi naturellement. Et puis ensuite, là, eh bien, le secret de la réussite réside dans la préparation du matériau. Parce que, nous allons le voir ensemble, il y a tout un temps de préparation. Ça se fait pas comme ça, le potier va pas dans son jardin, et puis il prend sa bêche, il ressort une motte, et puis c'est comme ça. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et tout cela va conférer à l'objet la finesse et la robustesse. Je suis toujours... séduit, enfin entre guillemets, vous comprendrez, par la porcelaine. C'est joli la porcelaine. Hein, il y a là quelque chose de très fin, vous passez le doigt ou les deux doigts sur les rebords, hein, vous verrez quelle finesse. Et c'est solide, hein. Enfin, faut pas laisser tomber, hein, naturellement, mais bon, quoi qu'il en soit, hein, ça... Mais il y a quand même quelque chose de très beau, de très fin. Et la porcelaine, eh bien, c'est, on peut dire, le nec plus ultra de la poterie. Et puis, il y a l'art de l'ouvrier. Parce qu'on ne met pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi naturellement. Et l'art de l'ouvrier, c'est l'habileté de ses doigts. Et c'est lui qui va y apporter à la fois la forme, qui va y apporter la touche finale. Et ça se passe dans sa tête, hein. Il n'est pas en train de regarder une photo pour copier ce que les autres ont fait, mais il est imaginatif, hein. Il est inspiré, nous pourrions dire. C'est comme dans d'autres arts, hein, naturellement. Est-ce que vous avez vu des souffleurs de verre? Vous allez me dire, c'est pas la même chose, hein. Mais dites donc, alors là, il ne met pas les doigts, hein, parce que vous comprenez pourquoi. Mais quand il prend une masse, hein, de verre, enfin c'est pâteux, hein, vous voyez, c'est incandescent. Et il le fait au bout d'un bâton avec, il y a quelque chose, hein, il est vide, hein, et puis il souffle. Et quand on arrive à la fin, quand ils arrivent à faire, par exemple, des figurines, par exemple, d'animaux ou autre chose, je me dis, mais oh là là, vous seriez capable peut-être de... Non? Hein, sans se brûler, hein, naturellement. Hein. Il souffle, et puis voilà un verre qui se fait avec... il a un petit couteau ou je ne sais quel instrument, il y a certainement un nom approprié, et puis il découpe, et puis il coupe comme ça, et c'est formidable. Alors, Mais pour ça, je suis en train de prendre le temps de passer par le détail, parce que c'est un petit peu ce que le maître potier est en train de faire avec chacun d'entre nous. On va le voir par le détail d'ici quelques instants. Mais d'abord, nous allons observer le travail préparatoire. Et c'est un travail ingrat. Je dis bien ingrat, parce que quand on voit sur une étagère d'un magasin un bel objet de porcelaine, mais il y a eu naturellement un avant, et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Alors il y a un travail que qu'on pourrait nommer préparatoire, et ça, le potier n'est pas toujours propre. Et on comprend pourquoi, il a son grand tablier, il a ses bottes, et il est en train de faire les choses comme ça. La motte d'argile à l'état brut. Et ça se trouve dans le fond de sa cour, hein, peut-être sous une bâche, alors il va chercher tout cela, et puis il va rentrer ça dans son atelier. Ça ne présente aucune valeur apparente. Un tas de terre, une masse de glaise, ça ressemble à de la boue tout simplement. Et ça nous ressemble à l'état brut. L'homme inconverti, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu audacieux ce que je suis en train de dire, mais quand même, quand on voit l'homme dans sa désespérance, dans son péché, et puis le chrétien, lorsque véritablement il découvre Jésus, il y a quand même une différence. Heureusement qu'il y en a une, parce que ce serait préoccupant. Mais toujours est-il qu'il y a l'état brut et puis l'état fini. Et en matière de préparation de la poterie, eh bien, celle-ci va subir tout un processus long et élaboré, tel que, je le cite, hein, c'est des termes techniques, mais ça nous donne une idée quand même, le lavage. Parce qu'il faut beaucoup d'eau dans la maison d'un potier, vous l'avez remarqué. Et puis le décantage ensuite, eh bien là, ça doit se reposer. Ensuite, il y a le séchage de cette masse. Il y a l'évaporation. Il y a le mélange. Ensuite, cette masse est malaxée. Et puis, il y a le repos, encore une fois de plus. Il y a le vieillissement de l'argile. Parce que ça compte. Et on peut faire naturellement, à travers le cheminement spirituel d'un enfant de Dieu, d'un homme qui a été choisi à l'état brut pour devenir, eh bien, ce que Dieu veut qu'il devienne, alors à ce moment-là, il y a une comparaison avec le traitement que Dieu fait avec nous-mêmes pour nous amener à devenir entre ses mains des vases d'honneur. Attention, hein, c'est ce que nous avons lu. Des vases d'honneur destinés à au moins trois choses. À sa gloire d'abord, parce que c'est lui qui est à la fois le créateur, c'est lui qui est le maître potier. Ensuite, quand il est question de sa gloire, ça passe par le caractère chrétien. Parce que être chrétien n'est pas seulement la confession verbale, mais c'est une vie. C'est une transmission, une communication de vie à travers le caractère, la personnalité spirituelle et la vocation céleste. C'est-à-dire qu'il y a tout un plan. Il y a tout un but que Dieu s'est assigné. Et nous sommes dans ce plan-là. Néanmoins, il est bien certain que chaque homme reste libre de choisir son mode de vie. Eh oui. J'entends par là que, bien, par l'évangile, il y a l'appel. L'invitation à la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Nous pouvons nous arrêter à un moment ou à un autre. Nous pouvons dire, Seigneur, bon ben voilà, c'est bien. Ça s'arrête là, je ne vais pas plus loin, moi ça me suffit. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens que Paul nommera charnels, et puis des chrétiens spirituels, ceux qui vont finalement dans le processus jusqu'au bout. Et puis il y a naturellement ceux qui se refusent à l'œuvre de Dieu, qui se disent, ben, Dieu n'existe pas, il y a ceci et cela, enfin bon, qui refusent, qui choisissent leur mode de vie. Il y a naturellement le mode de vie inférieur et le mode de vie supérieur. Et le choix du moindre, c'est-à-dire de l'inférieur, nous conduit, hélas, à retourner à notre lieu d'origine, c'est-à-dire la poussière. Et c'est désolant, c'est dramatique, c'est une véritable catastrophe lorsque les hommes, malgré l'appel de Dieu, se refusent, alors que finalement ils se refusent à rentrer dans la vision de Dieu. Alors ils se disent, eh bien moi, c'est comme ça, alors ils retourneront à la poussière, c'est-à-dire ce sont des hommes qui ont été créés, mais qui passeront à côté de ce nec plus ultra de la volonté de Dieu qu'est la rédemption. Et ils auront passé sur la terre pour rien. C'est-à-dire que leur vie, eh bien, n'aura pas de signification, n'aura pas atteint son but. Nous avons été créés pour ce à quoi Dieu nous a appelés. Et il y a un but, nous l'avons saisi, nous l'avons compris, nous l'avons réalisé avec la grâce du Seigneur. Mais malheureusement, autour de nous, il y a des millions et des millions de gens qui se disent, eh bien voilà, même s'ils ont peur de la mort, même s'ils sont là, hein, dans l'effroi de l'inconnu. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. Hein. Donc c'est un choix, naturellement. Alors, il y a cette position inférieure, ils retourneront à la poussière comme des vases non réussis. C'est ce que nous avons lu dans la maison du potier. Il a pris de la masse et puis elle n'a pas réussi. Et là, le vase est complètement là, délaissé. Alors que Dieu a naturellement un autre plan infiniment plus glorieux à la condition de nous laisser préparer et de nous laisser former par lui. Et c'est tout le but de notre réunion ce matin. C'était le but de cet enseignement. De dire, Seigneur, eh bien, change-moi. Vous savez, comme on le chante, change-moi, Seigneur. Hein? Et c'est pour stimuler justement ce désir de dire, eh bien, Seigneur, j'ai marché tant de mois, tant d'années avec toi, mais il y a encore quelque chose à faire. Pour devenir les plus beaux possibles, mais pour sa gloire, pas pour nous, naturellement. Ô Éternel, dit le prophète, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, et nous sommes l'ouvrage de tes mains. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, nous allons maintenant parler de l'homme et de l'argile. La science reconnaît, par l'analyse, que chimiquement, l'un et l'autre sont de la même composition. Hydrogène, oxygène, calcium, sodium et phosphore. Et certainement qu'il y a d'autres composants. Vraisemblablement. Mais en gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Or, en hébreu, le nom Adam, vous connaissez tous, hein, naturellement, veut dire rouge. Et Adama, ça veut dire terre, terre rouge. Et aussi étonnant soit-il, le corps humain, fait d'argile, est destiné à devenir le réceptacle de la vie. Il nous est dit que Dieu a pris une masse informe, faite de poussière, il a soufflé, il lui a donné le souffle, il lui a donné l'animation, on peut dire ça comme ça. Alors nous sommes appelés, dans cette vue de Dieu, nous sommes appelés à être les réceptacles de la vie et de la puissance. Pas la vie telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'âme, mais nous sommes appelés à une vie supérieure. Il faut que le vase soit rempli. Il ne faut pas qu'il reste vide, si beau soit-il. Et il faut qu'il soit donc débordant de la vie de l'esprit de Dieu et de porter son image. Écoutez ce que nous dit par exemple le psaume au chapitre 8 et à travers deux versets 5 et 6. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et tu as tout mis sous ses pieds. » Voilà. Je trouve qu'il y a des textes extraordinaires dans la parole de Dieu pour nous montrer finalement eh bien, ce que Dieu, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, l'ambition de Dieu. Quelquefois, ce qui est assez désopilant, ce qui est assez attristant en même temps, c'est que le peuple de Dieu a une vision très courte, souvent inférieure à ce que Dieu veut. Mais le Seigneur a des projets, le Seigneur a une vision pour nous, le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire pour son Église. On peut dire, ah oui, mais nous ne sommes pas grand-chose dans une ville aussi importante. Ben oui, mais ça n'a pas d'importance. Hein? Ça n'a pas d'importance, il ne faut pas regarder et mesurer en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Il faut demander à Dieu qu'il nous donne la perception de sa vision, de son ambition. Et ça, c'est extraordinaire. Avec Dieu, comme dit David, nous ferons des exploits. Il suffit que nous ayons la foi, il suffit que nous ayons cette confiance, gros comme un grain de sénévé, et là, Dieu va se servir de son peuple. Et il va se servir de chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que tu l'as fait inférieur, un petit peu en dessous des anges, mais tu as quelque chose qui va beaucoup plus loin encore que le ministère des anges, pour nous. Paul exprimera toute la mesure de ce que nous sommes quand il parlera de vase de terre. C'est ce que nous avons lu dans le préambule de notre culte tout à l'heure. Et je relis ce que nous avons eu sous les yeux. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dira Paul, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On comprend tout de suite ce que ça veut dire. On comprend que Dieu a de grandes choses par la vie de l'Esprit, par eh bien là, la puissance qui est en lui, qu'il veut déposer au milieu de son peuple. Mais néanmoins, nous restons des vases de terre. Et c'est ça justement ce qui fait la grandeur de Dieu. C'est qu'il prend des choses qui ne sont pas et il leur donne la vie. Et elles sont. Il prend des choses faibles pour en faire, eh bien là, pour lui donner, lui reconférer la puissance. Il prend des choses viles. Eh oui, parce que l'histoire de la Bible, c'est ça. Il prend des Jacob. Il prend des gens qui sont pas forcément, eh bien là, recommandables. Et il va les façonner, il va les peaufiner, il va en faire des gens extraordinaires. Des disciples. Il va en faire des hommes qui marqueront l'histoire. Et l'histoire du royaume de Dieu particulièrement. Alors, quand la masse de terre se forme et se transforme sous les mains du potier, que ça, c'est assez amusant de voir comment ça se passe. Hein, ça tourne, et puis à un moment donné, il y a des renflements, il y a des excavations, et puis il passe la main à l'intérieur, et puis là, vous voyez, ça monte. Formidable. Extraordinaire. Vous imaginez un petit peu avec moi, là. Hein, j'ai pas de tour devant moi, mais vous imaginez un peu ce que ça peut être. Hein. C'est quelque chose de formidable. C'est, on pourrait dire, vous m'excuserez pour le mot, mais c'est comme si c'était magique. Enfin, toute proportion gardée, naturellement. Et lorsque l'objet est terminé, eh bien, il reçoit un nom. Parce que c'est ça ce qui est intéressant. Vous savez, quand Dieu a créé, eh bien, il a appelé Adam, il lui a dit, tiens, viens, j'ai quelque chose à te demander, je voudrais que tu me donnes un petit peu ton idée. Voilà, il a fait venir, là, les animaux, etc. Il a donné un nom à chacun. C'est l'identification, ça. C'est important, parce qu'un nom, ça correspond à quelque chose. Et puis, eh bien, le potier, il va dire, voilà, il a le choix, naturellement, entre une simple bassine, enfin, excusez-moi, et puis un vase, et puis toutes sortes d'autres objets de poterie, hein, soit pour l'alimentaire ou pour autre chose. Alors, il va donner un nom. Il va marquer quelque chose. Un nom qui va le distinguer en fonction de son usage, en fonction de sa beauté propre, en fonction de sa dignité, et le nom reçu sera d'autant plus prestigieux qu'il reflétera la finesse, l'élégance, la réussite de ce que le potier aura pu faire avec l'argile utilisée. Il y a certaines argiles qui échappent entre les mains du potier, soit parce qu'elles ont été mal préparées, mais ça, nous verrons ça la prochaine fois. Hein, il n'arrive à rien. Quelquefois, il n'est pas toujours réveillé, le potier. Mais bon, dans la mesure où hein, c'est un professionnel, mais néanmoins, quelquefois, il a du mal. Il a, parce que l'argile, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque d'élasticité, et puis de souplesse, enfin, toutes sortes de choses. Peut-être un manque d'eau, enfin, toutes sortes de choses. Alors, à ce moment-là, il va sortir cet objet. Et il va lui donner un nom qui va le distinguer en fonction de tous ces paramètres, ces adjectifs que je vous ai donnés, ces caractéristiques. Cette évocation nous rappelle que Dieu a déjà tout préparé pour que nous portions le nom qu'il nous destine. Eh oui, vous avez déjà lu dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé d'un nom nouveau. Eh oui, et vous savez que nous portons déjà un nom nouveau. Vous connaissez ? Ça n'a pas l'air. Mais vous avez des changements de nom. Regardez, Abraham. Abraham. Vous avez également Simon qui va devenir Pierre. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, vous allez peut-être m'aider, hein, allez-y. Voilà, Saul de Tarse, Paul, pardon. Sarah et Sarah. Ouais, voilà. Et ça, déjà, ils avaient leur nom avant, hein. Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont su, hein. Nous, on le sait parce qu'on l'a lu dans la Bible. Mais toujours est-il que nous avons déjà un nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Alors, nous ne sommes pas assis sur de belles étagères dans les lieux célestes comme des belles faïences. Mais nous sommes déjà assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et nous avons déjà un nom. Et ce nom sera véritablement la caractéristique. Sera là, eh bien, en quelque sorte, tout ce qui nous aura, eh bien, marqué dans... Qui sera la marque de nous-mêmes, de ce que Dieu aura pu eh bien faire. De l'œuvre accomplie, de ce qu'il aura réussi à faire en nous et par nous. Eh oui, c'est pour ça que je crois que dans le message destiné à l'Église, il faut prêcher aussi. Il faut prêcher la souplesse. Trop de communautés ont été éduqués, ont été enseignés dans des choses tellement carrées, tellement aiguës, tellement cadrées, tellement serrées, tellement comprimées, tellement, enfin tout ce que vous voudrez, hein, qui exprime l'étouffement. C'est pas comme ça, hein. Mais Dieu nous a appelés à la liberté, à l'affranchissement,
C'est pour la liberté que vous avez été affranchi. C'est la liberté en Christ. Alors, l'apôtre dira dans Galates, mais je vous en supplie, ne retournez pas à tous ces rudiments. Rudiments religieux, rudiments de ceci, rudiments de cela, qui viennent finalement de l'imagination des hommes, même s'ils s'inspirent certainement de vérités bibliques et de vérités de la pensée de Dieu, mais qui ont été déformés. C'était ce que Jésus a reproché le plus aux pharisiens. Vous avez changé les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Et là, à ce moment-là, c'est la suffocation. Il y a des églises qui sont mortes parce qu'elles ont été étranglées. On peut dire ça comme ça. Il faut de la souplesse. Il faut que nous soyons, malléables. Il faut que nous soyons flexibles. Et Dieu va faire des choses. Alors, même si je comprends pas, Dieu va me demander des choses en disant, mais je les ai apprises comme ça, Seigneur. Et Dieu va nous dire, mais non, mais laisse-toi faire. Ce serait que c'est certainement une vérité. Tu les as apprises comme ça. Mais moi, je voudrais te montrer qu'il y a une autre dimension qui va te sortir de ta raideur, qui va te sortir de ton ankylose, qui va te sortir de ta calcification, pour que nous soyons vraiment rendus libres. Regardez la pâte entre les mains du potier et l'argile. Pff, formidable. Eh bien, c'est cela. Et vous l'avez souvent entendu de ma part. Souplesse. Souplesse et flexibilité, simplicité. Qu'est-ce que nous compliquons les choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas me répondre, naturellement. Oh, si, si, si. Mais oui, c'est cela. Et Dieu veut que nous soyons. Vous avez bien marqué l'image. Dieu nous prend. J'allais dire comme une bonne pâte. Attention. Mais il nous prend, il nous met sur son tour, et il attend que nous puissions nous laisser faire. Qu'est-ce que c'est que le principe de la foi? C'est la confiance. Et quand je fais confiance, je me laisse faire. C'est sûr que j'ai des problèmes. C'est sûr que j'ai des perplexités. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses dans ma vie. Des résistances. Mais Dieu me dit, tu es entre mes mains, laisse-toi faire. Parce qu'à chaque fois que je veux forcer, je casse. Et quelquefois, j'en arrive même à casser ma relation et ma communion avec le Seigneur, quand ce n'est pas la communion avec les autres. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Je suis comme l'argile. Et Dieu veut me façonner. Pourquoi, Seigneur, tu fais cela? Pourtant, eh bien, ta parole nous dit. Oui, mais la parole, elle nous dit, parce qu'elle est vivante, la parole. Je peux la prendre selon la lettre, et il nous a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ça, c'est autre chose. Il est temps que les églises rentrent dans une véritable liberté du Saint-Esprit. Que nous nous affranchissions d'un légalisme pur et dur. La loi, elle est juste, elle est sainte, elle est à la gloire de Dieu. Mais nous en avons fait quelquefois un carcan. Où les gens suffoquent. Où les gens manquent de l'air du royaume de Dieu. Et la foi, c'est... Eh bien, la foi, c'est de m'abandonner comme un enfant s'abandonne entre les mains de son père. Il ne discute pas, un petit enfant, il a confiance. Oui, il se laisse faire. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Et c'est pour ça que souvent le peuple d'Israël était appelé par Dieu, qualifié par Dieu de peuple aux cours roides. Ah oui, il faisait pas. Le Seigneur faisait pas ce qu'il voulait, hein. Alors, je peux vous dire que des Moïse et puis tous ceux qui l'ont conduit, le peuple d'Israël, ils en ont vu de 36 couleurs. Écoutez, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc sera écrit un nom nouveau. Eh oui, il nous a donné un nom nouveau. Mais pour pouvoir que ce nom soit bien écrit, il faut que nous soyons là, libres entre ses mains. Et puis, je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que dans le travail, ou dans ce travail, puisque nous parlons de souplesse, beaucoup d'éléments indispensables entrent en jeu. Il y a d'abord l'art de l'ouvrier. Je vous ai dit, il y a des écoles pour la poterie, il y a des formateurs, il y a des artistes, c'est pas seulement des artisans, mais il y a des artistes. Et il y a l'eau aussi. L'eau est un élément très important pour former un vase, et l'eau qui lave, l'eau qui lisse. Vous avez vu les aspérités d'un vase quand il passe, et le doigt mouillé du potier, ça devient véritablement lisse. Et puis, ça assouplit la motte, parce qu'il y a de l'eau pour justement, eh bien là, faire en sorte. Et puis, il y a le rythme du tour. Alors, vous savez, maintenant, c'est des tours, je suppose, électriques, avec un moteur électrique. Mais dans le temps, on le voit encore, dans certains reportages d'artisanat dans le monde, tiers-monde. Ils avaient une, qu'est-ce que je veux dire, Et puis, ça tournait. Alors, c'était à la fois les mains,
c'était les pieds, puis c'était la tête aussi qui marchait. Hein. Aujourd'hui, il y a l'énergie électrique, c'est autre chose. Hein. Enfin bon, ça sert, et puis il doit y avoir certainement des rythmes différents. Et le rythme du tour imprime par pression les formes. Ça se fait pas d'une manière violente, hein. Ça se fait d'une manière très délicate. Et puis il y a le feu. Ça, on en reparlera parce que c'est très important. Le feu qui va conférer à ce moment-là, mais ça c'est une partie finale de l'opération, la beauté et la solidité définitive. Imaginez-vous que vous preniez un vase qui vient de sortir du tour et que vous vouliez l'utiliser comme ça. Vous allez avoir de la boue dans la soupe. Hein. C'est sûr que ça va pas aller loin. Donc il faut un feu, mais pas n'importe quel feu. On en discutera. Et puis donc le feu qui va donner la beauté et solidité. Et puis dans le psaume 66, hein, que quelquefois nous avons médité ensemble, ressort le processus spirituel qui est décrit de manière semblable. Écoutez, c'est formidable parce que quelquefois on se pose des questions, mais pourquoi tu me fais passer par ceci et par cela? Écoutez bien, c'est un des textes qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, dira le psalmiste. Tu nous as fait passer au creuset. Et vous savez ce que c'est. Nous avons passé par le feu et nous sommes passés aussi par l'eau. Mais écoutez, parce que là, c'est véritablement l'espérance de toute conclusion d'épreuve, de toute sortie d'épreuve. Mais tu nous en as retirés pour nous donner l'abondance. Vous savez que Jésus le dit aussi, quand il parle « Je donne la vie et je veux que mes brebis soient dans l'abondance. » C'est pas restrictif avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur a des choses à nous montrer, des choses à faire avec nous, et des choses qu'il veut que nous soyons, que nous devenions, mais dans la mesure. Eh bien, là, nous lui donnons le feu vert dans notre existence, pour nous donner l'abondance, pour nous donner la beauté. Oui, ce ne sera pas une beauté extérieure, mais la beauté de l'âme, la beauté du cœur, l'esprit évangélique. Ah, parce qu'il est beau, hein, chez Jésus, l'esprit évangélique. Formidable. Ouais, si tu reçois un coup de poing, tu tends encore la joue. Hein. Et puis, tu bénis ceux qui te maudissent, hein. Tu pries pour ceux qui te maltraitent, etc., etc. Ça, c'est l'esprit de l'évangile. C'est une beauté, c'est une abondance de cœur, une abondance de bouche aussi, une abondance finalement, et bien là qui est une bénédiction pour tous ceux qui nous environnent. Alors, que dire de l'école à laquelle Dieu soumet ses enfants? On a tous une petite idée, hein. Il y a l'école divine du Saint-Esprit, on y passe tous. Parce que si on n'y passe pas, nous dit le livre des Hébreux, c'est que nous ne sommes pas ses enfants. Nous sommes des enfants illégitimes. Et encore plus fort, il nous est dit que nous passons par là parce que Dieu nous aime. Et ce qui a fait dire à certains, « Seigneur, tu m'aimes un peu moins, ça pourrait peut-être m'arranger. » Non, c'est parce que Dieu nous aime. Mais qu'est-ce que fait un père avec ses enfants quand ils ont besoin d'être repris? C'est parce que justement il les aime et il veut qu'ils deviennent des hommes. Alors, cette école de Dieu, eh bien, c'est les mains de cet artisan entre lesquels nous sommes. Et ses mains sont parfaites, c'est pour ça qu'il faut faire confiance. Même quand je comprends pas, elles sont parfaites. Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Ah ouais, ça c'est une autre affaire. Parce que nous voudrions bien comprendre les choses avant de les vivre. Il y a des aventures dans la vie où Dieu nous embarque comme les disciples sur le lac. Et on dit, Seigneur, tu sais, j'aimerais bien savoir, mais quand Abraham a été appelé, il lui a pas donné de A à Z le parcours. Il nous a dit maintenant, va quitte ton pays, de la maison de ton père et ton pays, enfin voilà, et je va dans le pays que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il lui a pas demandé l'itinéraire, il lui a pas demandé ce qui allait arriver. Il nous a dit que là, eh bien il est parti tout simplement. Et c'est quand il a prolongé ses marches au fur et à mesure que s'est révélée la volonté de Dieu. Et quelquefois nous rentrons dans certains chemins, nous marchons sur certains sentiers et nous disons Seigneur et nous bloquons, nous disons Seigneur, eh ben si tu m'en dis pas plus, je vais pas plus loin. Ben, c'est ce qui s'est passé pour Israël quand il s'est agi de rentrer dans le pays de Canaan. Vous savez combien ça leur a coûté de stationnement? Enfin pas en prix, hein. C'est gratuit à Saint-Nazaire, hein. Tous les stationnements sont gratuits. 38 ans à tourner en rond. Et quelquefois je dis qu'il y a des enfants de Dieu qui tournent, peut-être pas 38 ans. Quoique, on ne sait jamais. Mais toujours est-il qu'il y en a qui font du parking. qui font du parking. Alors Dieu sait pourquoi et il sait ce qu'il fait. Ça s'appelle la confiance, ça s'appelle la foi. Il nous voit déjà achevés. Vous vous rendez compte que pour chacun d'entre nous, il nous connaît comme finis. On a du mal à s'imaginer, mais ça c'est une pensée stimulante. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, mais moi je me vois pas encore, hein, même quand je me regarde dans une glace, comme un miroir. Mais lui, il le voit déjà fini. Il a une ambition. Il a une perspective de nous. Et il nous dit, voilà, celui-ci, Pierre, Paul, hein, Jean, ou eh bien moi voilà comment je le vois. Et la grande ambition de Dieu, c'est de nous parfaire. C'est d'atteindre ce but-là. Parce qu'il y a une raison à tout. Hein. Le livre des psaumes nous dit que Dieu a un but pour toute chose. Alors, Seigneur, nous pouvons dire comme les disciples hier, augmente-moi la foi. Parce que la foi, c'est de voir ce qui est invisible. Et puis, il y a l'eau ensuite. Les mains de l'artisan, c'est-à-dire ce que nous avons dit, l'art de l'ouvrier. Il y a l'eau. L'eau, on pourrait la comparer peut-être aux difficultés existentielles. Vous savez, quand Jésus nous parle du fou et du sage, quand il nous a dit les torrents sont venus, et puis la pluie est tombée, etc., etc. Alors, il y a naturellement l'eau. Et l'eau qui érode. Vous savez, au bout d'un certain temps, les montagnes se sont faites comme ça, elles se sont profilées. L'eau qui coule sans cesse sur notre... Et ça, c'est notre lot quotidien. Nous avons des problèmes, des difficultés. Et ça finit par détremper. Quand l'eau ne cesse pas de tomber, ça finit par détremper. Et l'eau assouplit aussi. Hein, les mottes qui sont très sèches, à un moment donné, la terre va s'assouplir. Eh bien, ça, c'est aussi, certainement le but, de nous détremper dans certains domaines, de nous assouplir, d'éroder les aspérités. Alors, vous n'avez pas d'aspérité. Je n'ai pas d'aspérité. Moi, je dis que j'en ai pas. Mais c'est les autres qui s'aperçoivent que j'en ai. Naturellement. Les aspérités. Et puis l'eau finit par polir les relations. Ça touche la communion fraternelle. J'avais pris cette image, vous savez, mais je le rappelle. Vous savez, quand une pierre se détache du haut des sommets, là, dans le Massif central, parce que nous sommes au bord de la Loire, quelquefois ce sont des blocs qui tombent dans le torrent, et puis ça va passer des années. Mais au fur et à mesure, ça va descendre comme ça. Et c'est pour ça qu'on trouve du sable fin, là, dans la région. Mais avant, qu'est-ce que c'était ce sable fin? Pourquoi? Parce que des pierres pleines d'aspérités se sont frottées les unes contre les autres, et elles se sont finalement, érodées, polissées, et nous avons des beaux galets. La communion fraternelle, c'est pareil. Les gens qui se disent, moi, je ne participe pas à la vie de l'Église parce que, ça ne m'intéresse pas, il manque une phase élémentaire et une phase très importante dans leur vie spirituelle. Parce que, justement, c'est dans la communion fraternelle qu'on apprend. Parce qu'on va se frotter les uns contre les autres, il va y avoir toutes sortes de choses. Et le couple, c'est ça. La vie familiale, c'est aussi cela. Et il faut en passer, ça c'est sûr. Il faut continuer à aimer. Et à un moment donné, nous allons devenir... nous allons devenir polis. Nous allons être polis, en quelque sorte. Il n'y aura plus d'aspérité. Ça, c'est une œuvre sur le caractère chrétien. C'est important. Et quand on se dit, moi, je ne fréquente pas, parce que finalement, il y a toutes sortes de raisons, qui sont toujours des fausses raisons. Le Seigneur nous dit, mais est-ce que réellement tu fais partie du corps de Christ? Parce que c'est dans le corps de Christ que les choses se mesurent. Forcément, naturellement. Alors, ça polie les relations, le tempérament se change. Cela aussi tempère nos réactions. Quelquefois, nous avons des réactions épidermiques, instantanées, et puis, faut apprendre, elles sont brutales parfois. Et ça modère aussi nos avidités. C'est ça, l'eau. Peut-être certains conflits, on va pas les provoquer, les conflits. Ils arrivent tout seuls, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a également le rythme du tour. Et le rythme, on va le comparer au temps. Le temps. Il y en a qui disent que c'est de l'argent. ça, c'est autre chose. Faut pas que je m'égare. Mais le temps, c'est long, le temps. Alors, quand tout va bien, c'est bien, mais quand tout va mal, quand les choses vont mal, c'est long. La souffrance est longue. Quand on est là alité, quand on est là sans pouvoir bouger. Alors, le rythme, c'est le temps qui lime nos impatiences. Parce que quand même, nous sommes exhortés à changer de ce côté-là. Nous sommes impatients par nature. Le peuple d'Israël était un peuple impatient et il faisait des bêtises. Il commettait des fautes, et des fautes grossières qu'il a payées très cher d'ailleurs. Et ça, eh bien, le rythme, le tour, vous savez, le tour qui tourne, eh bien, il y a différentes vitesses. Et là, à un moment donné, le potier va ralentir ou il va accélérer parce qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être une forme à prendre, mais il faut accélérer peut-être à ce moment-là. Ou il faut ralentir parce qu'il y a peut-être une nuance à faire. Eh bien, Dieu nous soumet au temps. Et le temps, quelquefois, s'accélère, le temps ralentit. Et il ralentit plus souvent avec le Seigneur. Dans certains cas, c'est long. C'est long et c'est lent. Et le tour de Dieu sur lequel il nous forme est parfois un tourbillon. Ça passe très vite. Et puis, très souvent, il est quelquefois au ralenti. Alors Dieu prend son temps. Et ne vous énervez pas. Parce que c'est là, justement, quand on s'énerve, que tout va mal. Hein? Quand on n'arrive pas à faire une chose et qu'on s'énerve, alors vaut mieux mettre la chose de côté et de la reprendre plus tard. Et quelquefois, Dieu nous dit, puisque tu n'es pas prêt, puisque tu ne veux pas comprendre, puisque tu ne te laisses pas faire, puisque tu le sais, parce que tu connais la parole, puisque tu l'as réentendu à travers une prophétie, parce que Dieu parle aussi quand même, hein, ça existe, hein, ou puisque tu l'as entendu de tel ou tel frère ou sœur, hein, puisque tu l'as entendu de ton mari et de ta femme, mais là, de ce côté-là, ça passe très difficilement, parce qu'il est trop proche, et il te connaît bien, alors on va prendre son temps. Le Seigneur nous dit, on va prendre son temps. Alors, il faut comprendre à ce moment-là que, bien, et Dieu prend son temps pour qu'il ne reste aucune imperfection. Et puis, il y a le feu aussi. Je vais bientôt terminer le feu. C'est l'affinage du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, dans l'évangile de Matthieu, est comparé au feu. Hein, il est question du feu, me semble-t-il. Oui, je crois que c'est dans Matthieu. L'affinage du Saint-Esprit qui brûle, qui est pur, qui fixe et qui établit définitivement. Parce que vous savez, si vous avez fait un dessin, ou si vous avez passé, par exemple, le processus de faïençage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, il faut que ça soit fixé par le feu. La porcelaine aussi, hein, il faut qu'il y ait véritablement, et puis vous savez que ça chauffe, hein, on en reparlera. Et tantôt l'épreuve, tantôt l'adversité, mais passer au feu. Et la Bible a un terme tout à fait particulier parce qu'elle nous parle de la fournaise ardente. Oui, c'est ce qui est dit. Alors on en ressort plus solide et je dirais même utilisable. Il y a eu des tempéraments, des caractères d'hommes, de femmes, y compris les pasteurs et en particulier les pasteurs. On y passe aussi, c'est normal. Et il faut y passer peut-être avant les autres pour pouvoir le dire aux autres après. Parce que si on parle de choses qu'on ne connaît pas, c'est du vent. Alors, à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est que on en ressort, eh bien, pas comme on y est entré dans le four. Eh oui, il y a une expérience de vie. Il y a des réalités qui nous sont apparues à ce moment-là. Peut-être nous avons vécu l'isolement. Nous avons vécu peut-être un temps de mise à l'écart. Mais quand on va en ressortir, on va ressortir utilisable. Je veux dire que Dieu va pouvoir nous employer. Parce que nous aurons vécu certaines choses. Et vous savez, quand on a vécu certaines choses, on peut plus se comporter et on peut plus dire ce qu'on avait dit auparavant. C'est sûr. Alors, simplement, voilà l'œuvre terminée. Et nous verrons la prochaine fois que ça, ce n'est qu'une partie des choses. Mais le travail de l'artisan potier a commencé déjà bien avant d'être un vase utile et d'ornementation. L'argile, c'est-à-dire la matière première, a subi toute une préparation. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. C'est Dieu qui nous prend et nous parlerons de la conversion, nous parlerons de la repentance, nous parlerons de la nouvelle naissance, nous parlerons de tout ce processus. L'argile arrive, il est extrait de la terre, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça se fait avec tout un processus. Alors, je crois qu'on peut dire comme Ésaïe le disait, nous l'avons lu dans ce chapitre 64, « Ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes l'ouvrage de tes mains. » Alors Seigneur, rends-moi digne, rends-moi beau, rends-moi utile, fais de moi un vase d'honneur pour ta plus grande gloire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et on se remplit de cette pensée pour ensuite bénir le Seigneur de ce qu'il veut, de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il va continuer à faire. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Ta parole est lumière. Ta parole est une formidable leçon d'observation. Ta parole, Père éternel, parle à notre cœur. Elle parle à notre intelligence. Et tu nous as rendus, Seigneur,
tel que tu désires que nous soyons, mais il y a encore certainement de la route à faire. Eh bien, Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. Oui, Seigneur, et j'ai été formé par tes mains agiles. Seigneur, s'il te plaît, continue ton œuvre. Il y a tant d'aspérités. Il y a encore le péché, Seigneur. Il y a encore tant de choses, Père éternel, dont je ne suis pas forcément conscient. Mais toi, tu vas dans tes mains me montrer qu'il y a, Seigneur, ceci et cela. Et c'est toi qui vas me le montrer. Alors, Seigneur, une fois que c'est montré, aide-moi véritablement à être décanté, à être lavé, à être préparé, à passer, Seigneur, sur le tour, à être là, mis au four, et ainsi, Seigneur, eh bien, ressortir véritablement comme un vase de prix à la gloire de mon Sauveur, à la gloire de mon Créateur, à la gloire de mon Rédempteur. Parce que c'est ça, Seigneur, ce qui est important. Nous avons été créés. Mais Seigneur, dans cette création, il y avait véritablement tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu nous as appelés à être là, et bien à passer par la rédemption. Et nous te bénissons. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli et tu nous vois déjà finis. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Gloire à Jésus. Amen. Amen.